Dr Ted Riel de Brent, OT Histoire, Lit. Et Théologie, Conférence 23. Symbole copyright 2020, Dr Ted Riel de Brent. Il s'agit du Dr Ted Riel de Brent dans sa Conférence 23 d'Histoire, de Littérature et de Théologie de l'Ancien Testament sur le livre de 1 Samuel, la disparition de Saül et les premières histoires du roi David. A aperçu du quiz entre minuit et 4h46. Classe, pourquoi ne commençons-nous pas? Nous avons récupéré le haut-parleur aujourd'hui. Bon retour de Thanksgiving et j'espère que vous avez passé un excellent Thanksgiving en passant du bon temps avec vos amis et votre famille. Probablement, comme moi, vous revenez épuisé. Alors maintenant, il nous reste 2 semaines d'école. Je pense que vendredi est le jour de la lecture, n'est-ce pas? Ajoutez à cela ce cours, jeudi, nous avons d'ailleurs un quiz. Accédez au matériel de quiz répertorié en ligne. Permettez-moi de passer en revue cela. Il y a là un article sur les psaumes imprécatoires. Il y a certains psaumes appelés « psaumes imprécatoires », ce sont eux qui disent « qu'ils jettent ton bébé contre les rochers, que quelqu'un te frappe à la mâchoire et te brise la tête », ce genre de choses. Ce sont des psaumes imprécatoires. John Day écrit un article sur la façon de comprendre ces psaumes imprécatoires. Je pense que cela sera utile en termes de compréhension. Il y a un verset à mémoriser de Job. Ensuite, des psaumes sélectionnés, la plupart des psaumes que vous allez lire, vous les connaîtrez. Puis Esdras, Néhémie et Esther, mais dans Esdras, il n'y a que des chapitres sélectionnés. Dans Néhémie, il n'y a que des chapitres sélectionnés. J'aimerais que vous lisiez tout le livre d'Esther. Ce n'est pas si grand. Vous avez besoin du livre entier d'Esther pour faire avancer l'histoire. Ainsi, des parties sélectionnées d'Esdras, des parties sélectionnées de Néhémie et pour Esther, lisez le tout. Ensuite, l'article et le verset à mémoriser et il y a des psaumes sélectionnés. Donc ça ne devrait pas être trop mal, ça devrait être une semaine intéressante avec ces lectures. L'autre chose, si l'un d'entre vous fait des transcriptions supplémentaires, elles doivent toutes être rendues jeudi. C'est un rendez-vous difficile. Si vous ne les faites pas entrer d'ici là, vous ne les faites pas entrer. Donc c'est une date difficile, vous devez l'avoir d'ici jeudi, vous avez eu tout le semestre pour travailler là-dessus, donc c'est tout. Je dois les avoir tout d'ici jeudi. L'autre chose est que certains d'entre vous n'étaient pas là à Thanksgiving pour notre merveilleux quiz du mardi. Vous avez pris l'avion ou autre et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais rester après ce cours. Le cours se termine vers 16h30, donnez-moi 5 minutes pour parler aux gens et mettre les choses au clair à la fin du cours, et si quelqu'un souhaite rester à 16h35, nous ferons le quiz ici. Si vous ne voulez pas faire le quiz ici, vous pouvez venir à mon bureau. Je serai là demain, mercredi, de 9h du matin jusqu'à 14h au Frost 304, sauf à l'heure de la chapelle. J'ai une réunion à l'heure de la chapelle, des réunions de professeurs, les gens aiment Yek et Yek. Je suis désolé, mais les réunions prennent parfois du temps, alors si vous revenez de la chapelle, donnez-moi quelques minutes. Parfois, les réunions ne durent que quelques minutes, mais je reviens juste après. Mais à l'heure de la chapelle, je ne serai pas là, mais je serai là de 9h à 14h sauf à l'heure de la chapelle. C'est pour demain et jeudi, puis nous aurons un autre quiz le jeudi suivant, et après cela nous passerons à l'examen final. La finale ne sera pas exhaustive. Il couvrira le matériel du dernier examen. J'espère donc que ce sera une bonne chose. Commençons par un mot de prière, puis nous aborderons David aujourd'hui. Commençons par un mot de prière. Père, nous te remercions pour Thanksgiving. C'est une merveilleuse période de l'année de retour en famille et entre amis et de retour à nos racines. Nous vous remercions de nous avoir dit, de nous réjouir toujours dans le Seigneur et je le répète, réjouissez-vous, d'être reconnaissant, de rendre grâce pour toutes choses. Et nous te remercions surtout pour le don que tu nous as fait en ton Fils Jésus-Christ. Nous vous remercions de ce qu'en parcourant le livre de 1 Samuel aujourd'hui et en regardant David, nous pouvons voir certaines ressemblances du Christ en David, qui est un homme selon votre cœur. Même Jésus-Christ, votre Fils, est venu comme Fils de David. Je prie donc pour que vous nous aidiez alors que nous explorons la vie de David aujourd'hui. Je te remercie encore une fois pour ton Fils Christ et pour nous avoir donné ta parole. En son précieux nom, nous prions, Amen. B. Le problème de Saül, le sacrifice de Guigal entre 4h47 et 11h05. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Avant d'arriver à David, nous devons parler de Saül. Nous devons donc calmer Saul. Il fut le premier roi d'Israël, nous allons maintenant voir les inconvénients de Saül. C'est l'erreur de Saül qui se déroule ensuite au chapitre 13 à Guigal. Maintenant, il y a pas mal de détails, en fait, dans le premier cours, c'est après Thanksgiving, et je pouvais juste voir les gens disparaître. Je pense que tout le monde est fatigué après Thanksgiving. Je pensais que peut-être que tout le monde reviendrait rafraîchi. Donc Saul a peur. Pourquoi Saül a-t-il peur? Vous êtes la Jordanie, vous êtes Israël, la mer de Galilée, le Jourdain, la mer morte. C'est le canyon entre les deux pays, entre la Jordanie et Israël, appelé la vallée du Rift. Il va à Guigal. Pourquoi Saül a-t-il peur? Parce que Guigal est situé près de Jéricho, au fond de cette vallée du Rift. Il craint que les Philistins ne les attaquent. Maintenant, où les Philistins traînaient-ils habituellement? Si c'est Israël, les montagnes d'Israël, vous êtes la mer Méditerranée, où sont les Philistins? Le long de la côte philistine. Ils se trouvaient le long du littoral. C'est plat là-bas. Ils l'aiment pour leurs chars. Les Philistins vivent donc dans la plaine côtière. Si Saül est ici dans la vallée et qu'il s'inquiète de l'attaque des Philistins, quel est le problème? Cela signifie que les Philistins ont traversé les montagnes d'Israël et sont prêts à les attaquer ici. Est-ce une position vraiment dangereuse dans laquelle se trouver alors que les Philistins ont traversé Israël et se dirigent maintenant vers Jéricho? Ce serait comme si Cuba attaquait le Montana. Vous diriez, laissez-les faire. Si Cuba attaquait le Montana, cela signifierait-il qu'il aurait parcouru une grande partie de l'Amérique pour atteindre le Montana? Est-ce que le jeu est terminé? La plupart des places de défense sérieuses auraient déjà été prises. C'est à ça que ça ressemble. Les Philistins ont traversé les montagnes et Saül est mort de peur. Il devrait être mort de peur. Ce que Samuel lui dit au chapitre 13, c'est, d'accord, descends à Guigal, et j'y serai 7 jours plus tard, et j'offrirai un sacrifice et nous aurons la bénédiction du Seigneur à ce sujet. Eh bien, 7 jours plus tard, où est Samuel? Tout d'un coup, le prophète Samuel ne se montre plus. Ces prophètes sont toujours en retard aux réunions. Ainsi il est dit au chapitre 13, Saül resta à Guigal, et toutes les troupes qui étaient avec lui tremblaient de peur. Il a attendu 7 jours. Quand vous avez peur, qu'est-ce que la peur vous donne envie de faire? Voulez-vous rester sur place lorsque vous avez peur ou voulez-vous courir? La peur mène à la fuite, on a envie de courir. Donc ces gars sont là-bas, tremblant de peur, mais Samuel n'était pas venu à Guigal et les hommes de Saül ont commencé à se disperser. Alors il dit, apportez-moi un holocauste et une offrande de communion, je vais offrir l'holocauste. Maintenant, quel est le problème? C'est un roi. Est-il prêtre? Non, il n'est pas. Voyez-vous ce que le pouvoir fait à une personne? Il est le roi et il étend désormais son pouvoir. Les personnes en position de pouvoir aimaient étendre leur pouvoir. Alors maintenant, il étend son pouvoir, il assume les fonctions sacerdotales en disant, « Je dois le faire ou mes hommes vont tous se disperser. » D'ailleurs, dès qu'il commence à offrir le sacrifice, devinez qui se présente. Effectivement, il commence à offrir le sacrifice et Samuel apparaît. Il s'agit du chapitre 13, « Quand j'ai vu que les hommes se dispersaient, dit Saül, et que vous n'étiez pas venus à l'heure fixée et que les Philistins se rassemblaient à Michmash, j'ai pensé que maintenant les Philistins descendraient contre moi à Guigal, et je n'ai pas recherché la faveur du Seigneur. Je me suis donc senti obligé de faire un holocauste. » Réponse de Samuel, « Tu as agi de façon insensée, dit Samuel, tu n'as pas observé l'ordre que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. » Si vous aviez gardé le commandement du Seigneur, il aurait établi votre royaume sur Israël pour toujours. C'est une déclaration très intéressante. Saül, si tu avais gardé le commandement du Seigneur, il t'aurait établi pour toujours. Saül dit, oh, mais je voulais offrir un sacrifice à Dieu. C'était une pieuse dissimulation. Il utilise la piété, il utilise la religion pour cacher son péché. Est-ce que ce mouvement est très courant? Samuel n'est donc pas dupe de cela, et Samuel le réprimande, mais en le réprimandant, il dit, si tu avais gardé le commandement, Dieu t'aurait fait, toi et ta lignée, roi pour toujours sur Israël. Cela signifie alors, y a-t-il un, si, avec Dieu? Dieu a dit, si tu avais obéi, je t'aurais fait roi pour toujours. Cela signifie qu'il existe une possibilité à laquelle Dieu était ouvert, mais Saül a pris une décision contraire à celle-ci et Dieu a répondu à cela. Il y a donc un, si, possible qui n'est jamais arrivé. Dieu a dit, si tu avais fait l'autre, je t'aurais fait roi pour toujours. C'est donc l'un des cas où vous voyez des futurs possibles, de multiples futurs possibles. Voici Saül, si vous l'aviez fait, alors il aurait réussi. Donc tout n'est pas réglé. Ce n'est pas un déterminisme où tout est figé et fossilisé, et où Dieu dit que nous allons passer d'un point A à un point B, puis à un point C puis à un point D, et que tout est figé. Non, Dieu a dit, si tu avais fait cela, je t'aurais fait roi pour toujours. Voilà donc ma réaction contre le déterminisme. Je pense que ce passage va à l'encontre de ce genre de déterminisme selon lequel tout est fixé dans le futur. Il semble que l'avenir soit plus flexible et plus susceptible d'être impacté. C'est l'histoire de Jonathan au chapitre 14 entre 11h06 et 18h59. Or, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette littérature, 1 Samuel, c'est une belle littérature. Laissez-moi juste organiser ça. Saül au chapitre 13 désobéit en offrant le sacrifice. Saül apparaît au chapitre 13. Au chapitre 15, Saül ne va pas tuer le roi Amalécite comme Dieu lui a dit de le faire. Donc Saül dans 15 va aussi tomber. Ainsi, au chapitre 13, Saül descend, et au chapitre 15, Saül redescend. Qu'est-ce qui se trouve entre les chapitres entre 13 et 15? Eh bien, chapitre 14. Le chapitre 14 est au milieu et le chapitre 14 concerne Jonathan. Donc ce que vous obtenez, c'est Saül en 13, en 15, et puis au milieu de tout cela, Jonathan apparaît comme ce merveilleux jeune homme en contraste. Je veux juste parcourir l'histoire de Jonathan au chapitre 14. Il n'y a pas grand-chose sur Jonathan. Je dis toujours aux gens que dans l'Ancien Testament, il y a deux héros de l'Ancien Testament qui sont parfaits, Joseph et Daniel. Ces deux gars sont irréprochables. Tout ce qui est dit sur Jonathan est bon. Le problème avec l'histoire de Jonathan, c'est qu'il n'a que quelques versets. Vous n'obtenez pas une longue description de Jonathan. Le chapitre 14 est le plus long, il n'est donc pas au même niveau que les longs récits sur Daniel ou Joseph. Mais l'histoire est la suivante, Jonathan et son porteur d'armure sont sur le terrain. Ils marchent vers l'est de Michmash, là où se trouvaient les Philistins. Ce que vous devez comprendre, c'est que, et je suis allé à cet endroit, Wadi-Suweni. Les falaises des deux côtés mesurent environ 250 pieds de haut. Des deux côtés, vous avez des falaises. Jonathan et son écuyer se promènent dans la vallée. Pourquoi vous dit-on en Israël de ne jamais marcher dans la vallée? Je pense l'avoir déjà mentionné. Quand nous étions à l'est de Bethléem, dans le désert de Judée, nous étions trois, tous de ma taille ou un peu plus grand, et ce gamin arabe de 12 ans était assis au sommet. Nous marchions dans la vallée et nous ne connaissions pas cette règle selon laquelle il ne faut jamais marcher dans la vallée. Ce gamin de 12 ans commence à nous jeter des pierres. Quand une pierre descend de 200 à 300 pieds, question, faut-il courir ? Donc le gamin est là-haut, riant aux éclats alors que trois grands Américains tentent d'esquiver les pierres de ce gamin parce que, je veux dire, ils arrivaient fort et vite et les pierres étaient des rochers. Cela vous aurait arraché la tête. Il riait aux éclats. Nous étions furieux mais pourrions-nous avoir l'enfant? Au moment où nous serions arrivés là-bas, il aurait disparu depuis longtemps, alors nous avons couru pour sauver nos vies. Nous avons appris une leçon ce jour-là, ne marchez pas dans la vallée. Où est Jonathan? Il est dans la vallée. Est-il vulnérable? Où sont les Philistins? Les Philistins sont à 250 pieds de hauteur. Y a-t-il plein de cailloux là-haut?
Oui.
Écoutez ce que Jonathan dit ici, c'est vraiment intéressant. Jonathan dit à son jeune écuyer, viens, allons à l'avant-poste de ces incirconcis. Peut-être que le Seigneur agira en notre faveur. Vérifiez ceci, rien ne peut empêcher le Seigneur de sauver, que ce soit par beaucoup ou par quelques-uns. Ou obtenons-nous quelque chose de semblable à celui où le Seigneur donne la délivrance par le plus grand nombre ou par quelques-uns? Est-ce que quelqu'un se souvient de Gidéon, avec toutes ses troupes et renvoyant tous ses gars chez eux? Dieu dit, et, il en faut juste 300. 300, c'est tout ce dont j'ai besoin, et nous affronterons tout le groupe madianite. Le Seigneur sauve par beaucoup ou par quelques-uns. C'est une merveilleuse déclaration. Le Seigneur peut sauver par plusieurs ou par quelques-uns. Donc juste mon porteur d'armure et moi, nous pouvons le faire. Faites tout ce que vous avez en tête, lui dit son porteur d'armure, vas-y, je suis avec toi de cœur et d'âme. Ce porteur d'armure faisait-il confiance à Jonathan? Mon fils est revenu de la guerre et il a dit que vous aviez des gens qui vous conduisaient à la guerre et que vous suivriez dans la bataille la plus épaisse. Vous les suivriez jusqu'à la mort. Oui, avez-vous d'autres gars que vous ne suivriez pas de l'autre côté de la rue? L'un des problèmes de mon fils était qu'il était chef de groupe. Les gars qui l'ont suivi seraient-ils morts avec lui?
Oui.
Parce qu'il savait qui commencerait. Lorsqu'il fallait enfoncer la porte, lorsqu'il fallait trouver l'iodé, qui passerait en premier, mon fils serait-il le premier à passer? C'est très stupide. Quoi qu'il en soit, il serait donc le premier. Ma femme et moi le savions, c'est pourquoi nous étions heureux lorsqu'il a été affecté à une autre mission. Nous étions juste contents parce que certains de ses amis ne sont pas revenus parce qu'il avait été les premiers. Ce porteur d'armure dit, « Jonathan, il y a un groupe de Philistins là-haut, il y a plus de 20 Philistins là-haut, nous ne sommes que 2 contre 20. Devinez qui gagne. Au fait, est-ce qu'on doit escalader une falaise de 250 pieds? Vous escaladez une falaise de 250 pieds et ensuite vous faites un combat au corps à corps, avec 20 gars. Que disent les Philistins? Les Philistins réagissent également à cela. Tous deux se montrèrent à l'avant-poste des Philistins. Regardez, disaient les Philistins, les Hébreux sortent des trous dans lesquels ils se cachent. Les hommes de l'avant-poste ont crié au porteur d'armure de Jonathan, approche-toi de nous et nous te donnerons une leçon. Maintenant, qu'est-ce que Jonathan a dit au Seigneur? S'ils disent de monter, alors nous saurons que Dieu les a livrés entre nos mains. S'ils disent de rester couchés, alors nous saurons que le Seigneur ne nous les a pas donnés. Ils disent, venez ici, les garçons juifs, nous allons vous apprendre une chose ou deux ici. Ils ont 20 gars. Ils vont nettoyer ces gars-là. Alors ils arrivent. Au fait, auraient-ils pu les éliminer lorsqu'ils escaladaient les falaises? Tout ce que vous avez à faire c'est de jeter quelques pierres là-bas, elles vont les faire tomber de la falaise. Mais ils les laissent monter là-haut et que se passe-t-il? Jonathan dit à son écuyer, « Monte avec moi, l'Éternel les a livrés entre nos mains. » Alors ils montèrent là-haut et les Philistins tombèrent devant Jonathan et son porteur d'armure, et ils tuèrent derrière eux lors de la première attaque, le porteur d'armure de Jonathan tua environ 20 hommes. 2 gars contre 20, Jonathan et son armure éliminent 20 gars. Jonathan est-il un guerrier? Parfois, dans les Écritures, vous pensez, « Oh Jonathan n'est qu'un doux petit-fils de roi. » Est-ce que ce type est un guerrier?
Oui.
2 gars en retirent 20, et ensuite que se passe-t-il? Dieu s'en mêle et la panique frappe toute l'armée car Dieu fait trembler le sol. C'était la panique envoyée par Dieu. Alors Dieu secoue le sol. Tout d'un coup, les Philistins réalisent quoi? Ces Juifs ont ce Dieu qui a fendu la mer rouge et maintenant que le sol tremble, nous allons sortir d'ici. Les Philistins sont donc terrifiés par ce qui arrive. Voici quelque chose que je n'avais pas réalisé quand j'étais plus jeune. Dans l'armée philistine se trouvaient des mercenaires juifs. Comment Jonathan a-t-il gagné la journée? Eh bien, Jonathan est un héros, Jonathan est un puissant guerrier. Je ne veux pas lui enlever cela. mais y avait-il des juifs dans les armées philistines? Qui, plus tard, rejoindra les armées philistines? David fait ça. À ce moment-là, avec Jonathan, le sol trembla, les Philistins paniquèrent, et puis si vous regardez le verset 20, il est dit, Saül et son armée se rassemblèrent et partirent au combat. Lorsqu'ils combattaient les Philistins, ils étaient dans une confusion totale, se frappant à coups d'épée. Les Hébreux qui étaient auparavant avec les Philistins et qui étaient montés avec eux dans leur camp passèrent chez les Israélites. Ainsi, les Israélites qui étaient mercenaires dans l'armée des Philistins, lorsque les Israélites ont attaqué, ces Israélites ont changé de camp et se sont en fait lancés contre les Philistins. C'était donc aussi une partie de la bataille. Les Israélites qui étaient des mercenaires ont changé de camp et Jonathan l'emporte. Dès le vue de Saül et celui de Jonathan défendu par le peuple 19:00-27:30. Ainsi, une grande victoire aux mains de Jonathan et le Seigneur remporte la victoire. C'est une grosse affaire. Maintenant, quel est le problème? Saül s'implique. Maintenant, c'est quoi le truc de Saül? Saül fait le vu que personne ne devrait manger de nourriture avant de vaincre son ennemi. Alors Saül fait un vu. Saül avait lié le peuple sous serment en disant, « Maudit soit l'homme qui mange de la nourriture avant le soir. En gros, nous allons poursuivre ces Philistins et les vaincre totalement. Personne ne peut s'arrêter pour manger. » Maintenant, quel est le problème de Jonathan? Jonathan vient de gravir une falaise de 250 pieds et s'est battu au corps à corps contre 20 gars. Jonathan a-t-il faim, vous pensez? Oui, le gars meurt de faim. Alors que se passe-t-il? C'est qu'il traverse les bois, il voit du miel, il le ramasse, il mange et se sent mieux et encouragé par cela, et puis que se passe-t-il après? Tout d'un coup, les choses se retournent contre lui et il tire au sort et le sort revient à Jonathan comme ayant rompu le vu de son père. Son père va donc faire quoi à son fils héros? Au fait, Jonathan savait-il que son père avait fait ce vu stupide? Jonathan ne savait pas que son père avait fait ce vu. Il mourait juste de faim en traversant les bois, il ne le savait pas. Jonathan était donc totalement innocent, et pourtant son père allait le tuer. Est-ce méchant? Jonathan est un héros. Qui sauve la vie de Jonathan? Il est dit, Saül dit, tu mourras. Alors les hommes, les troupes de Jonathan, le délivrent des mains de son propre père. Ses compagnons de guerre le sauvent des mains du roi, son propre père. Quel est l'un des rôles fondamentaux du père? L'un des rôles fondamentaux d'un père est de faire quoi à ses enfants? Pour protéger ses enfants. Ici, Saül va tuer son propre enfant. Oui, Anna. Demande d'un élève, est-ce que tout le monde entend qu'elle est en avance sur moi dans le récit ici, est-ce que tout le monde entend ce qu'elle a suggéré? Dans le chapitre suivant, Saül va épargner le roi des Amalécites que Dieu leur a dit de tuer, et pourtant ici, il va tuer son propre fils. Ce que je dis, c'est que tout cela est à l'envers. Alors il épargne le roi étranger, mais il va tuer son propre fils. Il était une fois, j'avais deux filles. J'étais à la maison et je faisais la vaisselle. J'étais père de deux jeunes filles et elles jouaient au camion dans le jardin. Mes filles ont ces deux camions, elles les remplissent de pierres et les transportent et les jettent. Je n'ai pas fait le truc des poupées, je préfère les camions, mais quand même. Alors ils jouent en arrière. Je fais la vaisselle et je regarde derrière, je regarde mes enfants jouer dans la terre, ils étaient d'ici au poteau. Pendant que je fais la vaisselle, ce type descend. Il y avait une passerelle à travers les bois, il y avait des bois des deux côtés. Il y avait une passerelle qui descendait, puis elle descendait jusqu'à la plage. Il y avait une plage de l'autre côté de la rue et de l'autre côté de la rue, donc les gens s'y déplaçaient tout le temps. Alors je fais la vaisselle et tout d'un coup son mec, un gars d'environ 40 ans, descend, il a un torse d'ours, un gros ventre de bière, en fait, je ferais mieux de faire attention à ça, il descend. Puis j'ai remarqué qu'à mi-chemin, tout d'un coup, il s'arrêtait. Il commence à regarder mes filles. Maintenant, je suis assis là à penser, eh bien, tout le monde passe par ici et tout va bien, mais il s'arrête et je fais toujours la vaisselle, mais est-ce que je regarde ce type comme un faucon? Alors pourquoi surveillez-vous mes filles? Descendez à la plage, continuez. Et ensuite, le gars a grimpé par-dessus le garde-corps. Il grimpe par-dessus la rampe et je le vois traverser les bois et je le vois ramper sur mes filles dans les bois. Quelque chose m'a quitté, je n'ai jamais rien vécu de pareil. Au lycée, je jouais au football, je jouais à tout, au basket, je jouais à tous les sports. J'ai vécu des situations conflictuelles, si vous voyez ce que je veux dire. Pour être honnête, je ne l'ai jamais perdu, je veux dire, c'était serré, il se passait des choses, mais je ne l'ai jamais totalement perdu. Tout d'un coup, alors que je faisais la vaisselle, j'ai complètement perdu la tête. J'ai laissé tomber ses assiettes et je suis parti en courant par la porte arrière. J'étais totalement, j'ai envie de dire, j'étais fou, je veux dire, c'était total, j'étais paniqué. Je cours dans les bois, ce mec s'est enfui. Je ne sais pas comment il s'est enfui, mais Dieu merci, il s'est enfui parce que je sais ce qui serait arrivé. Je ne l'aurais pas tué mais je lui aurais cassé toutes les côtes des deux côtés. Alors j'ai appelé les flics. Lorsque vous êtes dans une petite ville, quel est l'un des avantages d'une petite ville? Oui, alors j'ai appelé les flics, alors Terry est venu, il ne devrait probablement pas dire ça sur cassette, mais Terry est venu. J'ai dit, Terry, cela ne m'est jamais arrivé de toute ma vie, j'étais hors de contrôle. J'étais totalement hors de contrôle. J'étais sur le point de tuer ce type, Terry. J'ai appelé les flics maintenant, est-ce que vous me mettriez en prison ou quelque chose comme ça, que se passerait-il? J'étais totalement hors de contrôle. Cela m'a fait peur, je tremblais vraiment. Terry a dit, Ted, calme-toi, c'est moi qui rédige le rapport. Je prendrai soin de toi. Vous dites ce n'est pas justice et vous paniquez comme ça, c'est bien d'avoir un ami comme ça, il a dit on va prendre soin de vous. Environ 3 jours plus tard, le gars était, dans notre génération, nous les appelions des clignotants, mais je ne sais pas ce que cela signifie dans votre génération. Ce type est près des buissons et il y avait des filles qui passaient par là, et il est prêt à montrer ses filles. Andy Galvin, qui mesure environ 6 minutes 4 secondes pouce et pèse environ 260 à 270 livres, voit ce type se préparer à faire son truc. Andy s'enfuit alors et commence à poursuivre ce type. C'était le même gars que j'avais pourchassé. Cette fois, il le poursuit, tout d'un coup le pasteur de notre église est dans une voiture qui passe et voit Andy, qui est membre de son église, poursuivre ce type. Le pasteur de l'église descend de la voiture, sort et s'attaque au type. Puis Andy s'assoit sur lui. Quand Andy s'assoit sur vous, vous n'allez nulle part. Alors il s'est assis sur lui, et ensuite ils ont appelé Terry qui était le flic. Ils le recherchaient parce qu'il faisait cela avec d'autres villes du quartier. Mais j'étais content de ne pas l'avoir attrapé. Mon point est le suivant, l'un des rôles fondamentaux du père est de protéger ses enfants. Est-ce si profond chez quelqu'un que lorsque vous voyez vos enfants menacés, vos parents paniqueraient si quelqu'un vous faisait du mal? Certains de tes parents monteraient par le toit. Ce que je dis, c'est, voyez-vous ce que fait Saul? Saül est désormais le père et le père va faire du mal à son propre fils. Voyez-vous à quel point Saul est dans un état de désordre? C'est totalement contraire à tout ce que devrait être un père qui devrait aimer et protéger son fils. Saul était le principal imbécile. Je suppose que c'est ma preuve, Saul est un con. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Saul est un imbécile quand il s'en prend à son fils comme ça. Maintenant, que se passe-t-il? L'ironie ici, et c'est ce qu'Anna a souligné auparavant, Saül tuera son propre fils parce que son ego est violé, et pourtant, quand il s'agit de Dieu, Dieu lui a ordonné de tuer Agag, le roi des Amalécites, mais Saül a gagné. Je ne fais pas ce que Dieu lui a ordonné de faire. Donc, pour Saül, si vous violez la parole de Saül, cela signifie la mort. Si vous violez la parole de Dieu, ce n'est pas grave. C'est la parole de Dieu, eh bien, je l'ai capturé, je ne l'ai tout simplement pas tué, et il trouve des excuses. Voici donc la grande ironie. Je pense donc que les chapitres entre 14 et 15 sont liés par cette ironie. Il prend sa propre parole très au sérieux car il allait tuer son fils. Mais, parole de Dieu, il ne le fera pas. Il y a donc cette grande ironie entre ces deux chapitres. Eh bien, c'est Jonathan. Jonathan est un héros, un type bien. La désobéissance de Saül envers les Amalécites 27, 31-31, 39. Maintenant, Saul, c'est le chapitre 15. Les chapitres entre 13 et 15 sont ceux où Saul bâcle et c'est à ce moment-là que Dieu s'en prend à lui au chapitre 15. Il y a une déclaration intéressante de Dieu au chapitre 15.11, elle dit ceci, « La parole du Seigneur est venue vers Samuel. Je suis triste d'avoir établi Saül roi parce qu'il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes instructions. » Dieu dit, « Je suis attristé. » Qu'est-ce que cela signifie pour Dieu d'être affligé? Dieu dit, « Je suis attristé d'avoir fait de Saül roi. » Dieu a-t-il des regrets? Dieu dit, « Je suis attristé d'avoir fait de Saül roi. » Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais cela signifie simplement que Dieu réfléchit à cette situation. Je veux faire ressortir la notion, « Y a-t-il du chagrin au paradis ?» Ici, il est dit, Dieu dit, « Je suis attristé d'avoir fait de Saül roi. » C'est une déclaration très intéressante sur ce qui se passe au ciel. Donc je reviens toujours à cette chanson. Y a-t-il des « larmes au ciel » Oui, Eric Clapton avait raison, il y a des larmes au paradis. Dieu dit, « Je suis attristé d'avoir fait de Saül roi. » Maintenant, que se passe-t-il ici? Dieu dit à Saül de sortir et d'éliminer les Amalécites. Pourquoi Dieu lui a-t-il dit d'éliminer les Amalécites? Qu'avaient fait les Amalécites aux Juifs? Lorsque les Juifs traversaient le désert, il y avait des gens faibles, traînant derrière eux. Il y avait des retardataires qui étaient faibles et ils traînaient derrière, et les Amalécites se sont faufilés sur les Juifs par derrière et ont tué les retardataires, les plus faibles. Donc, ce qui s'est passé, Dieu a dit que parce que les Amalécites ont profité des pauvres et des opprimés, les Amalécites doivent être anéantis. Il dit alors à Saul, « C'est le moment et c'est toi qui le feras. » Alors Saul s'en va et Saul ne le fait pas. Au chapitre 15, verset 14, « Lorsque Samuel rencontre Saül, que l'Éternel vous bénisse, j'ai exécuté l'instruction de l'Éternel. » Eh bien, ce n'était pas vrai, mais Samuel a dit, « Qu'est-ce que c'est que ce saignement de mouton dans mes oreilles? Dieu vous a dit d'exterminer leurs chèvres, leurs brebis, tout devait être détruit, y compris le roi. Pourquoi est-ce que j'entends ce bêlement de mouton? » Saül répondit, « Les soldats les ont amenés des Amalécites, ils ont épargné les meilleurs moutons et bovins. Pourquoi ont-ils épargné les meilleurs d'entre eux? Pour les sacrifier au Seigneur. » Alors il donne cette pieuse dissimulation, mais Dieu a dit de les éliminer. Il dit, « Oh non, nous avons gardé les meilleurs pour pouvoir les sacrifier au Seigneur. » Samuel est gêné parce que Saül utilise cette sorte de dissimulation pieuse pour « les sacrifier à l'Éternel, votre Dieu, à Guigal. » Samuel répondit, « Le Seigneur prend-il autant plaisir aux halacostes et aux sacrifices qu'à obéir à la voix du Seigneur. » Semble familier. C'est notre verset à mémoriser. C'est le contexte de ce passage. Le Seigneur aime-t-il le sacrifice? Saül disait, nous avons gardé les meilleures brebis pour le sacrifice. Mais Dieu dit, il ne veut pas de vos sacrifices, obéir vaut mieux que le sacrifice, faire attention vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination, l'arrogance, comme le mal de l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a rejeté comme roi. Au chapitre 15 maintenant, Saul sait que c'est fini. Dieu l'a rejeté. Donc Dieu l'a rejeté et ensuite Dieu poursuit l'homme selon son propre cœur ici. Tant que votre cœur est bon, peu importe ce que vous faites, est-ce vrai? Non, Saül a dit, mon cœur est bon et j'allais offrir cela à Dieu. Dieu dit, non, ce que tu as fait était mal. Ce que vous faites compte, pas seulement ce que votre cœur vous dit. Eh bien, mon cœur avait raison. Parfois, peu importe que, votre cœur, ait raison ou non, c'est ce que vous faites, ainsi que votre cœur. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux barres obliquées. Vous devez avoir les deux droits. Ce que vous faites doit être juste ainsi que les motivations de votre cœur. F. Dieu et le changement 31, 40-32, 54. Le désir de Dieu au verset 22 est, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est ce que nous venons de voir. Maintenant, ce qui est intéressant au chapitre 15, verset 29, voici un beau verset, car celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne change pas d'avis. Car ce n'est pas un homme qui devrait changer d'avis. Est-ce que quelqu'un se souvient, attendez une minute, ne venez-vous pas de dire que Dieu peut changer d'avis? Comment cela marche-t-il? Je suppose que je reviens à la question, Dieu peut-il changer son caractère? Son caractère est-il ferme? Son caractère ne change pas. Quand Dieu donne sa parole, Dieu tient-il sa parole? Dieu est un gardien de promesses. Dieu est-il capable de dire des choses dans le futur qui n'arriveront jamais? Est-ce que Dieu est capable de changer d'avis? Je vais les détruire, prie Moïse, et alors Dieu les épargne. Donc sois prudent. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas penser. Au fait, penser signifie-t-il changer? Dieu pense, alors soyez prudent. C'est son caractère qui ne change pas, sa parole ne change pas, mais vous devez faire attention à ne pas cartographier cela dans un universel. J'ai David et toi 32, 55-34, 27. Maintenant, nous pénétrons enfin dans David. Alors voici David maintenant, Saül appartient à l'histoire ancienne, dans 1 Samuel 15. Saül tombe, et maintenant nous savons qu'il va y avoir un nouveau type. Mais que se passe-t-il au chapitre 16? Le premier verset du chapitre 16 a un problème. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps pleureras-tu Saül, puisque je l'ai rejeté comme roi d'Israël? Remplissez votre corne d'huile. » Or, quand un prophète remplit sa corne d'huile, que fait-il avec l'huile? Il oint les gens et qui oint il très souvent? Le roi. Alors il a une corne d'huile, il va oindre quelque chose. Il va oindre le prochain roi. Alors il dit, remplissez votre corne d'huile, huile d'olive et partez. Je t'envoie vers Jessé de Bethléem. David sera donc originaire de la ville de Bethléem. Bethléem, Beth signifie, maison de, le M signifie, pain. Bethléem signifie donc, maison du pain. C'est là que se trouvait la maison de David et qui est l'autre personne célèbre de Bethléem. Jésus va y naître. C'est aussi la ville de David où David est né. Je t'envoie vers Jessé à Bethléem, j'ai choisi pour roi l'un de ses fils. Alors Samuel dit, comment puis-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera point. Le Seigneur a dit, prends une génisse avec toi et dis, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur, et invite Jessé au sacrifice. H. Dieu et la tromperie de Saül 34, 28-37, 48. Cette génisse a-t-elle été prise délibérément pour tromper Saül? Il a une corne d'huile, pourquoi descend-il à Bethléem? Il va oindre le prochain roi. Dieu dit de prendre une génisse et de dire à Saül que vous allez vous sacrifier. Est-ce que cette génisse était intentionnellement destinée à tromper Saül afin que Saül ne tue pas Samuel? Au fait, Saül tuerait-il Samuel? Saül tuerait-il son propre fils? Plus tard, Saül tenterait-il de tuer David à plusieurs reprises? Alors Saül tuerait-il Samuel? Bien sûr qu'il l'aurait fait. Dieu dit de prendre une génisse. Maintenant, cette histoire devrait vous rappeler deux autres histoires que nous avons déjà eues dans l'Ancien Testament. Qui est impliqué ici? Qui met en place cette tromperie? Est-ce Dieu lui-même qui la met en place? Il dit, prends une génisse. Dis-lui que tu y vas pour un sacrifice. Donc Dieu est impliqué et planifie dans celui-ci. Maintenant, où étaient les deux autres histoires où cela s'est produit? Nous avons déjà vu cela deux fois, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, vous vous souvenez des sages-femmes hébraïques dans l'Exode, dans les premiers chapitres. Toutes les femmes juives ont des enfants avant notre arrivée parce qu'elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes, quand elles ont leur bébé. Les sages-femmes hébraïques ont donc menti pour dissimuler cela. Au fait, Dieu a-t-il permis aux sages-femmes hébraïques de sortir avec les Juifs et de faire partie d'Israël? Oui. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'autre histoire où une tromperie a été utilisée et que Dieu a approuvé? Oui, Rahab la prostituée. Les hommes du roi arrivent et elle dit, « Oh, ils étaient ici mais ils sont partis, ils sont allés par là. Tu ferais mieux d'aller vite pour les attraper. » Elle les cachait sur le toit et Rahab fut acceptée en Israël. Vous vous souvenez de la corde rouge et de la fenêtre par laquelle Rahab et sa famille ont été épargnés. En fait, Rahab apparaît dans quelle généalogie, d'ailleurs? Rahab, la prostituée, est dans la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu. Donc, ce que j'ai essayé de suggérer plus tôt, c'était de sortir ce genre de tromperie de la catégorie du mal et de la mettre dans le terme d'astuce. Quand on a affaire au mal, faut-il être astucieux? Permettez-moi de le présenter différemment. Le mot hébreu pour astuce est le mot arôme, arôme est également traduit par « sagesse ». Ainsi, le mot traduit, selon la traduction, est parfois traduit par « astucieux », et en fait, le mot dans les proverbes et ailleurs est traduit par « sagesse ». Quand vous faites face au mal, devez-vous être sage, devez-vous être astucieux? Soit dit en passant, ce n'est pas seulement moi qui invente cela, Jésus dit, soyez sages ou astucieux comme les serpents et inoffensifs comme les colombes, aussi innocents que les colombes. Alors, soyez sages comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Je pense que ce que vous avez ici, c'est que Dieu est astucieux parce qu'il savait que Saül tuerait Samuel. Alors il dit, d'accord, nous devons le déjouer, et ils l'ont fait. Certaines personnes se déforment, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Mentir pour sauver des vies dans un contexte de guerre ou de mal est acceptable. Il onction de David 37, 49-39, 51. Samuel oint le fils de Jessé, et Jessé le fait sortir, sinon son premier-né. Voici mon premier-né. Dieu dit, non, je ne veux pas de son premier-né. Son deuxième-né, son troisième-né, il fait sortir tous ses fils et finalement c'est, et, je n'ai plus de fils, et il dit, oh, ouais, il y a le jeune, mais c'est le bébé. De la famille, il garde les moutons, amenez le point. Mais le Seigneur dit à Samuel, chapitre 16 verset 7, ne considère ni son apparence ni sa taille. Dans le cas de Saül, ont-ils tenu compte de sa taille? Ne considérez ni son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne regarde pas les choses que l'homme regarde. L'homme regarde l'apparence extérieure mais Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas une blague, j'ai entendu quelqu'un prendre ce passage une fois et dire aux jeunes femmes ceci, l'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde l'apparence extérieure, alors chérie, tu ferais mieux de faire attention. Je suis très sérieux. J'ai entendu quelqu'un dire ça. J'ai failli coasser. Est totalement contraire à tout ce que ce verset signifie. Le sens du verset est-il à l'opposé de cela? Dieu se soucie et il du cœur. Est-ce que les gens prennent la Bible et la déforment? Et c'est un de ces cas, je ne l'oublierai jamais, c'était l'une des choses les plus stupides que je ne peux pas croire avoir entendu cela, parce que le but de ce passage est, Dieu regarde le cœur. Question, est-ce que cela nous donne une idée sur David? David sera-t-il l'homme selon le cœur de Dieu? David sera l'homme selon le cœur de Dieu. Au fait, cela veut-il dire que David est parfait? David va-t-il avoir ses problèmes? Il aura aussi ses problèmes, mais remarquez que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Cela met donc David en place. Nous connaissons son cœur. J. Saul est le mauvais esprit du Seigneur 39, 52-45, 41. Maintenant, ce qui se passe au chapitre 16, verset 13, il est dit, « Alors Samuel prit de la corne d'huile l'huile d'olive et l'onit David en présence de ses frères. À partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur descendit avec puissance sur David. Vous obtenez cette association d'onction d'huile et de l'Esprit de Dieu venant sur David. Vous voyez que cette onction d'huile et la venue de l'Esprit sont déversées sur David. Est-ce que quelqu'un parle déjà d'être oint de l'Esprit? En étant ointe de l'Esprit, cette huile représente l'Esprit de Dieu et le fait d'être ointe. Lorsque David est oint roi, l'Esprit de Dieu vient sur David. Mais ensuite le verset suivant dit, l'Esprit du Seigneur s'était retiré de Saül et un mauvais esprit venant du Seigneur le tourmentait. Quand Saül a perdu l'Esprit de Dieu, a-t-il perdu son salut? L'Esprit quitte Saül. Perd-il son salut parce que l'Esprit n'est plus avec lui? Dieu envoie-t-il les mauvais esprits sur les gens? Il est dit, un mauvais esprit venant du Seigneur est venu et a tourmenté Saül. Dieu impose-t-il les mauvais esprits aux gens? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela avant tout. Jusqu'à présent dans l'Ancien Testament, avez-vous vu de nombreux démons courir partout? Maintenant, au fait, si vous étudiez le Nouveau Testament, Jésus et les démons, en avez-vous beaucoup? Dans le Nouveau Testament, vous avez tout le temps Jésus et les démons. Dans l'Ancien Testament, en avez-vous lu beaucoup? Avons-nous vu des démons? Dans et avec la Genèse, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, avez-vous vu des démons? Moïse, des démons. Josué, des démons. Juge, démons. Vous travaillez en quelque sorte à travers cela. Il n'y a pas beaucoup d'activités démoniaques. Est-ce que cela veut dire que les démons malades de Dieu s'attaquent aux gens? Est-ce totalement hors contexte pour l'Ancien Testament? Ça l'est vraiment. Quel est le problème? Le mauvais esprit est venu sur Saül. Le mot « esprit » signifie-t-il différentes choses? En fait, même en anglais, le mot « esprit » signifie-t-il des choses différentes en anglais? Vous dites, cette école a de l'esprit. Voulez-vous dire que l'école a le Saint-Esprit? C'est peut-être vrai au Gordon College. En fait, c'était vraiment stupide. Permettez-moi de revenir sur cela, désolé d'avoir dit cela, c'était faux. Ce que je dis, c'est, une école a de l'esprit, tu voulais dire quoi? Ils ont de l'enthousiasme, non. Ils ont de l'esprit. Utilisons-nous même le mot « esprit » pour d'autres choses. Quelqu'un a organisé une fête et quelqu'un y a amené des esprits. Nous parlons des spiritueux comme de l'alcool. Dirons-nous un jour qu'une personne est déprimée aujourd'hui? Nous voudrions dire quoi? Leur morale est au plus bas. La personne est-elle déprimée? Allons-nous utiliser cela? Le terme hébreu ruach peut être utilisé pour désigner de nombreuses choses, notamment le vent et la respiration, mais il peut également être utilisé pour divers types d'esprits. Permettez-moi de lire le reste de ce contexte. Je ne pense pas que Dieu impose des démons à Saül. Je pense que le reste expliquera cela. Le serviteur de Saül lui dit, « Vois qu'un mauvais esprit de Dieu te tourmente. » Maintenant, quelle est la solution à ce problème des mauvais esprits? Que notre Seigneur ordonne à ses serviteurs de chercher ici quelqu'un qui puisse jouer de la harpe. Maintenant, quel est le problème avec le fait de jouer de la harpe? Les démons n'aiment pas la musique de harpe, ça leur rappelle le paradis et ils flippent. Ils disent, je dois avoir ce qu'on appelle, de la musique heavy metal, ou, je dois avoir, quelle est la musique démoniaque avec laquelle ils se sentent à l'aise. Le rap et d'autres musiques comme celle-là ou quoi que ce soit d'autre. Les gars en consomment. Mais bien sûr, si vous jouez de la country, ça les rend fous. Alors la musique de harpe. Est-ce vraiment ce qu'on dit ici? Non. Mais remarquez ceci, quand le mauvais esprit vient sur lui, alors trouvez quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Je vous le demande, combien d'entre vous, quand ils sont déprimés, écoutent de la musique? C'est ce qui se passe ici. Saül est déprimé, pourquoi est-il déprimé? Parce que l'Esprit de Dieu est hors de lui et qu'il réalise qu'il ne sera plus roi. Il perd son pouvoir en tant que roi et en est déprimé. Donc il est déprimé et quand il est déprimé, que se passe-t-il? Il demande qu'un musicien vienne pour qu'il se sente mieux, donc je pense que c'est ça. Ce n'est pas tant un mauvais esprit des démons qu'une dépression. Cette dépression vient du Seigneur. Un étudiant pose une question, quand je le lisais, cela me fait penser à Job et à la façon dont Dieu a permis au diable de le toucher. Cela m'a donc fait penser non pas nécessairement à Dieu, mais au mauvais esprit que Dieu a permis de venir à lui. Réponse de Hildebrandt, ainsi tout le monde voit, elle a sauté dans Job 1 et 2 où Satan monte et descend. Est-ce possible? Est-ce vraiment rare dans l'Ancien Testament? Je veux dire en dehors de Job, c'est vraiment rare. Avec la musique, j'associe la musique quand je dis qu'il est déprimé parce que Dieu a supprimé la royauté et qu'il est déprimé, et donc il obtient le joueur de harpe. Au fait, qui va jouer de la harpe? David. David va-t-il alors écrire beaucoup de psaumes? Il est un musicien. Vous allez donc voir beaucoup de David dans les psaumes. Mais c'est un lien intéressant avec Job 1 et 2. Maintenant, Dieu envoie-t-il de mauvais esprits sur les gens? Ce que nous avons essayé de dire, c'est que non, cela ressemble plus à une dépression avec la musique qui lui remonte le moral. C'est donc ce qui se passe ici. Qu'a Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament 45, 42-46, 23. Les gens de l'Ancien Testament avaient-ils une relation avec l'Esprit de Dieu? L'Esprit était sur Saül et l'Esprit le quitta. Était-ce un esprit de salut ou était-ce l'esprit de royauté? C'était l'esprit venant sur la personne, l'oignant de la dotation de la royauté. Ainsi, quand il quitte Saül, cela signifie que la royauté quitte Saül et que la royauté passe à David. L'esprit confère à David les dons dont il aura besoin pour devenir roi. Il ne s'agit donc pas d'un salut comme le don du Saint-Esprit comme dans le Nouveau Testament. Mais l'Esprit de Dieu était très actif dans l'Ancien Testament. En voici un exemple et il y en a bien d'autres. Première victoire de L. David en tant que nouveau leader 46, 24-58, 02. Qu'est-ce que David a à voir avec ça? Il est maintenant devenu roi, quelle est la première chose qu'il doit faire? Il doit remporter une victoire. L'histoire de David et Goliath est la première victoire de David. Il est oint au chapitre 16, et qu'est-ce que le chapitre 17? David et Goliath. Donc ça suit. David est le roi oint, puis il y a David et Goliath au chapitre 17 qui suit immédiatement. Je veux juste afficher cette carte. Tout d'abord Jérusalem et Bethléem. David va venir de Bethléem. D'où vient Goliath? Goliath de Gesse. Les Philistins vont partir d'ici, Gesse, et ils vont monter ici. Goliath et ses garçons monteront ici, après Azeka, jusqu'à la vallée d'Ela. Cette vallée d'Ela est là jusqu'à ce jour. Les Juifs sont-ils dans les plaines ou se cachent-ils dans les montagnes? Les Juifs se cachent dans les montagnes parce que les Philistins ont des chars. Les Philistins monteront dans la vallée, et les Juifs se cacheront dans les montagnes. Alors Goliath va sortir et narguer les Juifs. Les Juifs sont dans les montagnes. Goliath sort et les met au défi de descendre et de les combattre. David va sortir et il va avoir une fronde. Il va ramasser 5 pierres. Pourquoi David a-t-il ramassé 5 pierres, plutôt qu'une seule? D'accord, elle l'a dit avec un visage impassible, mais c'est en fait une blague que j'ai entendue. David ramassa 5 pierres parce qu'il apprit que Goliath avait 4 frères. C'est une blague, d'accord. Tu devrais sourire. En fait, elle est meilleure que moi pour raconter des blagues. Il ramasse 5 pierres, on ne sait pas pourquoi il a ramassé 5 pierres. À propos, si jamais vous allez en Israël avec le docteur Hélène Phillips et son mari, le docteur Perry Phillips, vous irez dans la vallée d'Ela, vous traverserez le ruisseau et vous pourrez ramasser 5 pierres du flux. Quand je dis un ruisseau, quelle est sa largeur? Ce ruisseau fait environ 4 pieds de large, il suffit de le traverser. Alors David s'en va avec ça, passons à la victoire de David ici. David sort et David descend, il est censé apporter de la nourriture à ses frères. Ses frères sont au combat et David descend de chez lui avec de la nourriture pour les nourrir. Envoyez-vous parfois de la nourriture aux troupes? Avez-vous déjà mangé des rations K? Les troupes ont-elles besoin de nourriture? Oui, parfois, posez-moi des questions sur mon fils et sur ce qu'il faisait comme nourriture. David demanda à l'homme qui se tenait à proximité, « Que ferait-on pour l'homme qui tuerait ce Philistin et ôterait cette honte d'Israël? Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? C'est un jeune de 16 ans qui parle. Goliath un grand personnage du genre chèque. David est un petit enfant de 16 ans. Il lui répète. Quand Eliabé, le frère aîné de David, vit David parler avec l'homme, il fut brûlant de colère contre lui et lui demanda, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé les quelques brebis? Pourquoi ne retournes-tu pas vers les moutons, David, et ne prends-tu pas soin d'eux dans le désert? » Eliabé, son frère aîné, dit ceci, « Je sais à quel point tu es vaniteux et à quel point ton cœur est méchant. Vous êtes seulement descendu pour assister à la bataille. Les petits-enfants aiment-ils regarder la bataille? Si les enfants plus âgés doivent se battre, ils sont morts de peur et peuvent mourir. le petit enfant descend pour assister à la bataille. Remarquez qu'il accuse David d'être vaniteux. David est-il vaniteux? Ses paroles sont-elles très courageuses et vraiment en face de vous? Mais est-il vaniteux? Je voudrais suggérer que ce n'est pas le cas. Son frère aîné ne connaît pas le cœur de David. La confiance de David est dans le Seigneur, pas dans lui-même. Alors David s'en va, ou du moins son frère l'accuse d'être vaniteux, mais David dépend en réalité du Seigneur. D'un autre côté, Saül avait-il initialement l'air humble? Mais Saül était-il vraiment humble? Non, Saul n'était pas en sécurité. Donc ce que je dis, c'est, est-il possible pour quelqu'un d'avoir l'air humble mais de ne pas l'être? Est-il possible pour quelqu'un d'avoir l'air fier et de ne pas l'être? En d'autres termes, pouvons-nous juger le cœur d'un autre individu? Ils peuvent paraître vraiment arrogants, mais ce n'est peut-être pas le cas. David ici présent fait des déclarations vraiment arrogantes. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Il s'approche de Saul et Saul lui dit, « Eh, mets mon armure. » David met l'armure mais c'est un petit enfant. Je ne peux pas me battre avec ce gilet pare-balles, il pèse 60 livres, je ne vais pas faire ça. Alors il l'enlève et dit à Saül, j'ai tué un lion, j'ai tué l'ours quand ils ont attaqué mes brebis, et je tuerai aussi le Philistin. Au fait, tuer un lion et un ours, est-ce une grosse affaire? Sans un 30 à 6 ou quelque chose comme ça, est-ce un gros problème? C'est un gros problème. Alors David sort. Maintenant, il sort, mais comment sort-il? Il sort sans armure, avec une fronde et des pierres, contre ce géant. En fait, le géant du chapitre 17 verset 41 interagit avec David. Pendant ce temps, le Philistin sort avec le porteur du bouclier, donc il a le gars qui porte son bouclier, devant lui, il se rapprochait de David. Il regarda David et vit qu'il n'était qu'un garçon. Alors là, vous avez ce grand type qui sort et ils envoient un garçon pour le combattre. Quand vous êtes un guerrier, voulez-vous un adversaire à la hauteur?
Oui.
Mon fils m'en a souvent parlé. Lorsqu'il était en Irak, l'une des raisons pour lesquelles il détestait y être était qu'il disait qu'il n'y avait pas d'opposants dignes de ce nom. Les gens étaient capricieux, il n'y avait rien pour eux. Lorsqu'il est arrivé en Afghanistan, y avait-il de dignes guerriers?
Oui, en effet.
En Afghanistan, ils ont des guerriers. Quoi qu'il en soit, il regarde David et dit, ils ont envoyé un enfant pour me combattre. C'était seulement un garçon, rouge et beau, et il le méprisait, et il disait à David, « Suis-je un chien, pour que tu sors, petit gamin avec des bâtons et des pierres, vas-tu me briser les os ?» Ce géant vient d'être terrassé, et, le Philistin a maudit David par ses dieux, il dit, « Viens ici, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Le grand type s'adresse à lui. « David. Au fait, est-ce une belle histoire à raconter aux enfants ?» Pourquoi cette histoire fonctionne-t-elle si bien auprès des enfants? Les enfants sont-ils de petites personnes entourées de géants? Non, je suis sérieux. Avez-vous déjà vu ce film, Big? Mais de toute façon, c'est un peu comme ça, des petits enfants et de grands corps tout autour d'eux. Donc pour les petits enfants, c'est une super histoire. Maintenant David va répondre aux Philistins, voici David maintenant, ce grand type vient juste de finir de beugler, maintenant David dit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot mais je viens contre toi au nom du Seigneur. Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera à moi, je te frapperai et je te couperai la tête. Ce sont des paroles assez fortes, et, aujourd'hui, je donnerai le cadavre des Philistins, poursuit-il, le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. Le gars se rapproche et que fait David? Il sort sa fronde, le frappe au front et l'abat. Que la pierre sur son front l'ait tué ou non, elle l'a détruit. Alors David fait quoi? Il monte, au fait, le juif avait-il des épées? Savez-vous que les Philistins avaient le monopole de la production de fer? Les armes étaient donc fabriquées par les Philistins, les Juifs manquaient de savoir-faire en métal et métallurgie. Alors David prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Maintenant, quel est le problème? Cela va paraître vraiment bizarre, mais c'est la vérité. Les archéologues ont trouvé une grosse tête, juste la tête, avec une pierre qui a fissuré le crâne et fendu le crâne. C'est la vérité honnête, je n'invente rien. Une pierre, au point mort dans le front du gars, et elle lui a brisé le crâne et ils l'ont effectivement trouvé. Je ne suis pas sûr de la date exacte, mais ils ont trouvé juste une tête, une très grosse tête avec une pierre, au point mort de la tête. Maintenant, vous dites, Ril de Brent, vous ne dites pas que c'est Goliath qui l'ont trouvé. Non, non. Je m'en remets. N'est-il pas intéressant qu'il ait trouvé un gars avec un crâne fissuré, qu'il lui ait ouvert le crâne avec la pierre et qu'il en ait trouvé un archéologiquement? Je ne dis pas que c'est Goliath. Serait-ce vraiment stupide de dire que c'est Goliath? Ce serait vraiment stupide de dire que c'est Goliath. Maintenant, tout ce que je dis, c'est que vous pouvez voir que des gens armés de fronde ont abattu de gros personnages avec des pierres leur brisant le crâne. C'est fascinant, c'est absolument fascinant, ils ont trouvé quelqu'un comme ça, je ne dis pas que c'est Goliath, donc il faut reculer. Anna. Demande d'un élève, oui, il faut faire attention, oui, il y a un débat sur les chiffres. Les chiffres dans les écritures ici sont qu'ils mesurent 9 pieds ou quelque chose comme ça. Je veux dire, même Sheikh n'est pas si grand. La plupart des gens pensent que ce que l'on mesure, c'est lui, avec son casque et tout son équipement militaire, qui a peut-être été plus haut que cela. Mais je veux dire que ce type est grand. C'est probablement jusqu'au sommet de sa coiffure qu'il mesurait. Dans le LXX, il mesure 6 pieds 9 pouces. Ainsi, la juste colère de David et la jalousie de son frère l'accusent d'avoir de mauvaises motivations et de vouloir simplement voir la bataille. Ensuite, nous venons de lire l'histoire du géant qui est sorti et David l'a abattu avec la fronde et lui a arraché la tête. Au fait, cette épée va-t-elle être spéciale pour David? David a tué Goliath, et plus tard David reviendra à cette épée. Nous allons voir cela se produire sous peu ici. Alors, que se passe-t-il? David gagne la bataille, les femmes causent toujours des ennuis. Alors ils sortent en chantant un chant de victoire. Le chant de victoire qu'il chantait est le chapitre 18, verset 7, Saül en a tué des milliers, et David est le sien, quoi? Des dizaines de milliers. Saul entend cela et que se passe-t-il avec Saul? Saül en tue des milliers et David en tue des dizaines de milliers. Saül devient jaloux de David. La jalousie mène-t-elle au meurtre? Je pense vous avoir dit que j'ai enseigné dans une prison à sécurité maximale pendant 10 ans. Il y a un gars nommé Brian là-dedans, qui avait environ 19 ans et sa fille s'est enfuie avec quelqu'un d'autre. Qu'a fait le jeune homme? Le jeune homme était jaloux de ce type, il a pris une arme à feu, l'a fait exploser et l'a tué. Il a passé 25 ans, je pense que c'était des années de prison. Il est sorti maintenant, en fait c'est une merveilleuse personne croyante, vraiment une personne dynamique. Mais la jalousie pousse-t-elle les gens à tuer des gens? Alors Saül devient jaloux de David parce que, Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Saul devient jaloux, et la chanson rend Saul fou et il s'en prend à David. Les tentatives de Monsieur Saül pour tuer David 58:03-62:27. Maintenant, voici comment l'ancien chef va tomber maintenant. Saül tente de tuer David. Il va tenter de tuer David de plusieurs manières. La première façon qu'il essaie est de passer par sa fille Michal. Comment prononcez-vous son nom? Je ne sais pas comment ça se prononce en anglais donc je dirais juste Michal, comme l'hébreu, Michal. Ils avaient une chanson, Michal Michal, ma belle en tout cas. Michal, la fille de Saül, était donc amoureuse de David. Belle chose. Quand Saül en fut informé, cela lui plut et il dit, je la lui donnerai, pensa-t-il, afin qu'elle lui soit un piège. Il va utiliser l'amour de sa fille pour David pour tuer David. Est-ce que ce type est méchant? Donc, que fait-il? David arrive et se rend compte que c'est une grande chose d'épouser la fille du roi. Que faut-il avoir pour se marier? Tous les gars le savent, il faut avoir la même chose. Quand un homme se marie, il doit avoir de l'argent pour épouser quelqu'un. Il faut avoir une dot pour payer. Alors David arrive, David est un homme pauvre, et ainsi, selon les mots de Simon et Garfunkel, également au chapitre 18, verset 23, ils ont répété ces mots. David dit, « Pensez-vous que devenir gendre d'un roi soit une petite chose ? Je ne suis qu'un pauvre garçon et on raconte rarement mon histoire, et il s'en va. Je suis désolé, c'est en fait une paraphrase de Simon et Garfunkel. » Il dit, « Je ne suis qu'un homme pauvre et peu connu », et David dit, « Je n'ai pas d'argent pour payer ce roi, comment puis-je trouver la dot du roi pour la fille du roi ?» Le roi dit, « Pas de problème David, je m'en occupe. Je veux juste 100 prépuces philistins. » Alors David sort, installe un petit seau et une petite cloche, et il dit, « Don, don. Prépuces de philistins, prépuces de philistins. » Et les Philistins sont venus et ont fait dot de tous ces prépuces et David est reparti. Ah non. Vous dites, Ril de Brent, c'est vraiment mauvais. J'ai cette imagination, je ne sais pas. Je suis né comme ça. Or, Saül le sait, quel est le seul moyen pour David d'obtenir un prépuce philistin? Il n'y a qu'une seule manière pour qu'il puisse l'obtenir. Il va devoir faire quoi? Il va devoir tuer un philistin. Il doit inventer 100 prépuces de philistins, cela veut-il dire que David va contre 100 gars? Est-ce un problème? Est-ce qu'un de ces types va l'éliminer? C'est ce que Saül estime à partir de 100 philistins. Que fait David? David revient non pas avec une centaine, mais avec 200. Est-ce vraiment dégoûtant? Maintenant, quelqu'un, j'oublie, c'était il y a quelques années, un étudiant était assis au dernier rang, la plupart du temps, le gamin sautait le cours, ne savait rien de ce qui se passait pendant le cours et il arrivait et disait, « David a tué les Philistins. » Comme ça, c'est méchant, il les a juste tués et a jeté leur prépuce, la Bible est méchante pour ce que David fait ça. Question, tout ce que fait David est-il sanctionné par Dieu? David a-t-il fait tout un tas de choses, bonnes et certaines mauvaises? Sont-ils en guerre contre les Philistins? Ils sont en guerre contre les Philistins, donc je ne sais pas dans quelle mesure nous devons nous justifier. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que le roi a demandé, c'est ce que David a fait. Il n'y a pas de commentaire, c'est juste de l'histoire, les gens font de mauvaises choses. Tu dois te calmer avec ça. Maintenant, Saül essaie d'une autre façon de tuer David. David joue de la harpe. Saül se sent déprimé, et David joue de la harpe, Saül attrape sa lance et que fait-il? Il lance sa lance sur David, David est-il un guerrier? David joue de la harpe mais peut aussi esquiver les lances en même temps. Ce type est rapide, la lance vient vers lui, il esquive la lance, esquive la balle, pour ainsi dire. Maintenant, que se passe-t-il? Il l'esquive donc au chapitre 19 où Saül essaie de le transpercer à mort. Alors Michal, sa femme, met une idole dans son lit, la recouvre de draps, Saül arrive en pensant, il va tuer David, il retire les couvertures, et qu'y a-t-il? Cette idole? Qu'est-ce que cela vous apprend sur Michal? Avait-elle des idoles? La famille de Saül y avait-elle des idoles? Cela vous dit simplement, le culte de Jéhovah était-il pur ou ses familles sont-elles toutes gâchées? Vous avez donc l'idole de Michal qui se cache et elle utilise l'idole pour cacher David, et David s'éloigne de Saül. Alors Saül essaya de le tuer, du moins à cette époque-là. En Jonathan avertit David 62:28-65:52. C'est l'une des plus belles histoires de l'écriture concernant David et Jonathan. Jonathan sait que son père va tenter de tuer David. Jonathan a des soupçons. Jamais, répondit Jonathan, tu ne mourras pas écouté, mon père ne fait rien de grand ou de petit sans me confier, dit Jonathan, pourquoi me cacherait-il cela? Ce n'est pas ainsi. David dit, et pourtant, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que vous vivez, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Alors David et Jonathan y vont. Laissez-moi simplement mettre en place l'histoire. Jonathan est connu pour son arc et ses flèches. David est un gars qui lance un lance-pierre. Jonathan sort, il va s'entraîner au tir à l'arc. Lorsqu'il s'entraîne à tirer à l'arc, il le dit à David et ils établissent le signal. Est-ce que des amis installent parfois des signaux? Il dit, si je dis à l'enfant d'aller au-delà, j'ai raté, il faut revenir en arrière pour récupérer la flèche, l'enfant va sortir et récupérer la flèche. Il va tirer à l'arc, l'enfant va poursuivre la flèche et la ramener. Si je dis au gamin, va au-delà, a-t-il dit, si je pars comme ça, tu sais que mon père va essayer de te tuer. Alors ils ont installé le signal. Jonathan entre et parle à son père. Tu sais ce que fait son père? Son père ramasse une lance et la lance sur Jonathan, il est tellement en colère contre Jonathan. Alors maintenant, Jonathan s'en va et il dit, il va essayer de tuer David. Alors il sort, tire à l'arc, la flèche part, Jonathan dit au garçon, va au-delà, et David sait que c'est fini. Leur amitié est terminée à ce stade. Donc David et Jonathan savent que David doit partir. Ils ne vont pas se voir. Après le départ du garçon, voici le chapitre 20 verset 41, après le départ du garçon, David se leva du côté sud de la pierre et se prosterna trois fois devant Jonathan, la face contre terre. Ensuite, ils se sont embrassés et ont pleuré, mais c'est David qui a le plus pleuré. Donc, vous obtenez ce genre de commentaires sur David, ils se sont embrassés et ont pleuré, et David a pleuré le plus. Jonathan dit à David, va en paix, car nous nous sommes jurés d'amitié au nom de l'Éternel, et l'Éternel est témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance pour toujours. David serait-il plus tard fidèle à ce vu qu'il a fait avec Jonathan de prendre soin des descendants de Jonathan? Quelqu'un se souvient-il de Mephibosheth, le fils de Jonathan, qui était boiteux des deux jambes? David prend soin du fils de Jonathan après la mort de Jonathan depuis longtemps. David s'en occupe. Avez-vous déjà entendu parler des frères de sang? Maintenant, vous ne le faites pas à votre âge, parce que personne ne devrait partager son sang avec qui que ce soit, je ne recommande pas cela, mais quand j'étais jeune, nous ne l'avions tout simplement pas ainsi. Donc Devrims est mon frère de sang. Alors quand nous étions jeunes, vous vous êtes mutilés, puis vous avez partagé votre sang. Alors il est comme mon frère de sang pour la vie. Non sérieusement et donc vous avez ça. David et Jonathan ont une amitié masculine très étroite, CF Ruth. Maintenant, quel sera le problème avec l'histoire ici, c'est qu'ils se séparent à ce stade. La prochaine fois que nous verrons Jonathan, c'est quand il sera mourant. C'est un peu triste, mais c'est à cela que servent les amis. Il essaie d'avertir David. Oh la fuite de David et sa cachette devant Saül 65, 53-68, 23. Maintenant, David va fuir. David se rend compte que Jonathan lui a dit, Saül va essayer de te tuer. David va fuir, alors David commence à courir. Il y a une carte ici que je veux parcourir à travers quatre endroits vers lesquels David va courir et nous y reviendrons plus tard avec le récit. Laissez-moi juste vous montrer sur la carte où il se trouve. Tout d'abord, David est allé à Anatoth, dans votre Bible, cela s'appelle Nab. Quelqu'un se souvient-il des prêtres de Nab, qui protégeaient David? David va donc se rendre chez les prêtres de Nab. Saül est d'ici, David va chez les prêtres de Nab, ils vont lui donner l'épée de Goliath et ils vont le protéger. Mais alors les prêtres de Nab vont tous être tués, 85 d'entre eux vont être tués. David s'enfuit alors de là, il s'enfuit à Guess. Maintenant, pourquoi était-ce vraiment stupide? C'est la ville natale de Goliath. Vous venez de faire sortir le grand type de leur ville. C'est probablement le plus gros gars qu'il ait jamais eu, et David vient de l'éliminer et de lui couper la tête. David descend à Guess puis va dans la ville et dit, « Eh, je veux être un mercenaire juif auprès des Philistins maintenant. Je veux juste dire, pas trop brillant, je ne sais pas. Il y a un problème, je ne pense pas que ce soit la décision la plus brillante que David ait jamais prise. » Alors il va à Guess, ça ne marche pas pour diverses raisons. Alors David se dirigea vers l'endroit appelé Keïla. La ville de Keïla, c'est là que j'ai acquis pour la première fois un aperçu de certaines choses dans les Écritures. Vous savez, je insiste toujours sur le fait qu'il existe plusieurs futurs possibles. Je vais vous le montrer dans le texte à Keïla. David va demander à Dieu si Saül descend et il demande à Dieu certaines choses sur l'avenir, et il semble y avoir de multiples avenirs ici à Keïla. Nous y reviendrons dans une minute. Saül va descendre ici, les Philistins sont montés et ont attaqué Keïla. David protège la ville de Keïla des Philistins. David devrait donc être le héros de la ville, mais il le trahirait s'il en avait l'occasion. Enfin, David monte au Carmel qui est dans le désert de Judée. Il y a un gars nommé Nabal qui a une femme nommée, est-ce que quelqu'un se souvient du nom de sa femme?
Abigaïl.
C'est ici que Nabal et Abigaïl se déroulaient toute cette situation avec David au Carmel. Alors David va fuir Saül parce que Saül essaie de le tuer et David va fuir vers ces quatre endroits. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement passer en revue les lieux, toucher chacun d'eux et simplement donner un résumé des histoires plutôt que de les passer en revue en détail. Pénab 68, 24-70, 27. Au chapitre 21, David se rend dans cette ville, la ville de Nab. Nab pourrait tenir sur le Kouat. Ce sont des petites villes. Il se rend à Nab, qui est une ville sacerdotale. Ils ont l'épée de Goliath. David a-t-il toutes sortes d'épées? David n'a pas toutes sortes d'épées parce que les Philistins contrôlent le travail du fer, donc il n'y a pas trop de métal qui circule. David reçoit l'épée de Goliath. Ses troupes reçoivent de la nourriture des prêtres. Quel genre de pain les prêtres avaient-ils? Les prêtres ont le pain sacré et donc les prêtres de Nab donnent aux hommes de David qui étaient des gens plutôt impurs, ils leur donnent la nourriture que seuls les prêtres devraient manger, et alors que se passe-t-il? Quand David part, il est nourri, il a maintenant l'épée de Goliath, et quand il part, qui apparaît? Saul est en fait juste au bout de la route, je ne sais pas, à 5 ou 10 miles de là. Saul apparaît. Il y a 85 prêtres de Nab, ordonna Teïla à ses troupes, allez là-bas et tuez ces prêtres. Ces prêtres ont aidé David et David contre moi. Point. Que disent les troupes de Saül? Nous ne faisons pas ça Saul, ces gars-là sont des prêtres de Dieu. Nous n'allons pas y aller et tuer ces gars-là. Ses troupes refusèrent donc d'entrer. Alors que fait Saül? Il parle à Deug l'Édomite, un type, et il lui dit, entrez et tuez le prêtre de Nab. Les prêtres étaient impuissants. L'Édomite, est-il le descendant de qui? Vous devriez le savoir maintenant. Le descendant d'Ésaü. Chaque fois que vous voyez Édomite dans les Écritures, qu'est-ce que les Édomites ont fait aux Juifs? Ils les ont tués. Quel est l'Édomite le plus célèbre que vous connaissez? Vous connaissez tous cette personne, Hérode. Le roi Hérode qui tua les enfants à Bethléem, était un Iduméen, descendant des Édomites. Alors Deug l'Édomite tue les 85 prêtres de Nab, vraiment mauvaise scène. David s'enfuit, il s'enfuit, mais les prêtres sont morts à Nab. Q David à Guess 70, 28-73, 24. David court alors vers Guess. Il entre à Guess et c'est une histoire amusante en fait, dans la deuxième partie du chapitre 21 ici dans 1 Samuel. David arrive en ville, il arrive avec ses gars, il a tous ses guerriers avec lui, et, nous voulons vous rejoindre, les Philistins. Nous serons des mercenaires pour vous, les gars. Les femmes de la ville se souviennent de la chanson, Saül en a tué des milliers, et David en a tué des dizaines de milliers. Alors ils disent, n'est-ce pas le David dont ils ont dit qu'il avait tué des dizaines de milliers de personnes et vous allez le laisser dans notre armée? Tout d'un coup, David se rend compte que ça va mal, alors que fait-il? Il fait semblant d'être fou. Ça dit que la salive coule dans sa barbe et qu'il crache sur lui-même, un peu comme si je le fais ici. Cela lui revient au visage, et ils disent, ce type est fou, ce type est à bout de souffle, pourquoi on s'en prendrait à lui? Au fait, est-ce que les gens utilisent déjà la folie comme ça? Était-ce une décision très intelligente de la part de David? Oui, parce que les choses allaient contre lui et qu'il se serait probablement fait tuer là-bas. Quand il prétend qu'il est fou, laissez-moi vous raconter une autre histoire de prison. C'est une prison à sécurité maximale. Les murs mesurent 40 pieds de haut avec des barbelés au sommet, ils avaient environ 10 pieds d'épaisseur. Il a été construit dans les années 1800. Il y avait un type dans la prison qui montait contre le mur, ce n'est pas une blague, tous les jours, ce type montait et criait contre le mur. Il s'approchait du mur de la prison et criait contre le mur. Tous les gars là-dedans dans la prison, tout le monde là-dedans est fou, d'accord, mais est-ce qu'il y a des fous? Ce type était fou. Vous n'allez pas crier contre un mur toute la journée et vous ne le faites pas jour après jour. Donc tout le monde dans la prison savait que ce type était fou. Maintenant, question, est-ce que vous plaisantez avec les fous? Vous êtes un grand gars, je soulève des poids 8 heures par jour, je suis un gars grand et fort. Question, il est fou, est-ce que tu plaisantes avec lui? Pouvez-vous intimider une personne folle? Question, supposons que ce soit juste un petit gars fou, est-il possible qu'il sorte une sorte d'arme et vous colle parce qu'il est absolument fou? Il ne se soucie pas de votre taille parce qu'il est fou. Il ne connaît pas la peur parce qu'il est stupide? Il s'avère donc que les gens ne plaisantent pas avec les fous, même en prison. En fait, il y avait des gens dans ma classe qui pensaient que ce type n'était pas fou du tout. Il pensait qu'il faisait juste semblant d'être fou parce qu'il ne voulait pas qu'on le dérange. Maintenant, David fait semblant d'être fou et, au fait, est-ce que ça marche? Question, si vous tuez un fou, que se passe-t-il? Dans les temps anciens, ils étaient très superstitieux. S'il est fou et que vous le tuez, ce qu'il a peut vous tomber dessus. Alors vous laissez les fous tranquilles. Vous ne voulez pas obtenir ce qu'ils ont, alors ne leur faites pas de mal, de peur que tout ce qu'ils ont ne vous tombe dessus. C'est donc un peu cette hypothèse de magie sympathique. Vous le laissez tranquille pour que cela ne vous arrive pas. Donc David a une évolution assez fluide là-bas, mais il est plutôt stupide d'y aller en premier lieu, à mon avis. R. David à Kayla, Dieu et futur multiple 73, 25-77, 41. Ensuite, il se rend à Kayla, et c'est au chapitre 23. Dans la ville de Kayla, et permettez-moi de raconter l'histoire. La ville de Kayla est attaquée par les Philistins, alors les Philistins s'attaquent à cette petite ville de Kayla. David et ses garçons montent là-bas et délivrent cette ville des Philistins. David libère donc cette ville de la domination philistine et délivre la ville. Alors David s'adresse au Seigneur et lui dit, « Apportez les faux », et il dit, « J'ai quelque chose à vous demander. » Au Dieu d'Israël, c'est le chapitre 23 verset 10, « Au Dieu d'Israël, ton serviteur a appris avec certitude que Saül avait l'intention de descendre à Keïla et de détruire la ville de Keïla à cause de moi. Les citoyens de Keïla me livreront-ils? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a entendu? » Alors David a dit, « Mon Dieu, j'ai deux questions. Est-ce que Saul viendra ici pour essayer de me tuer? Et deuxièmement, s'il descend, la ville me livrera-t-elle à Saül ou essaiera-t-elle de me protéger? » Dieu dit, « David, Saül descendra. Deuxièmement, ils te livreront à Saül. » Que dit David? Merci mon Dieu, je sors d'ici. David décolle. Mais Dieu dit, Saül descendra et ils te livreront. Est-ce déjà arrivé? Saül est descendu, ont-ils livré David? Non, parce que David a déraillé et est sorti de là. Alors, Dieu a-t-il dit à David quelque chose qui n'est jamais arrivé? Si David était resté dans la ville, aurait-il été livré? Oui. Mais David a dit, d'accord, maintenant que je sais qu'ils vont me livrer, je sors d'ici. Alors Dieu lui a dit quelque chose qui était possible dans le futur, mais David a choisi une direction différente pour que cela ne se produise jamais. Dieu connaît-il des possibilités qui ne se produisent jamais? Si David était resté là, cela serait arrivé. Mais David a dit, « Je ne suis pas stupide, je ne reste pas ici s'ils veulent me livrer, je sors d'ici. » Alors Dieu lui a dit ici quelque chose qui n'est jamais arrivé. Voilà donc la situation à Keïla. Je pense que cela montre que Dieu savait des choses qui ne se sont jamais produites. Il sait des choses dans le futur qui sont contingentes. En d'autres termes, ils dépendent de ce qui se passe et il existe apparemment de multiples avenirs. David a choisi d'interagir, non pas en restant là, mais en sortant de là et en évitant ainsi d'être livré à Saül. Alors, Dieu sait-il seulement ce qui est tout Dieu sait-il ce qui est possible? Ce que je suggère, c'est que Dieu sait non seulement ce qui est, mais il sait aussi ce qui est possible. Il existe des millions de possibilités. Ainsi, l'omniscience de Dieu n'est pas seulement unique dans la connaissance d'un avenir singulier, mais l'omniscience de Dieu est incroyable de multiples possibilités d'avenir, des millions de possibilités Dieu les connaît toutes. Donc en fin de compte, et à ce stade, vous pouvez évidemment être en désaccord avec moi, certaines personnes ont une manière plus déterministe de voir l'avenir. Je pense que cela conduit à une possibilité ouverte de choix et de liberté et que les êtres humains peuvent faire des choix et que les êtres humains peuvent contribuer à façonner l'avenir. J'aime Ésaïe chapitre 40, verset 28. Dieu dit ceci, « Personne ne comprend mon intelligence. » Savons-nous comment Dieu connaît l'avenir? Dieu peut-il choisir de connaître l'avenir dans toute sa richesse de possibilités? Dieu peut-il choisir de connaître l'avenir comme singulier? Donc ce que je dis, c'est que nous ne savons pas comment Dieu connaît l'avenir, et je veux juste faire reculer les gens parce que certaines personnes sont très dogmatiques sur ce sujet. Ils disent que Dieu sait tout, et ils pensent savoir ce que Dieu sait. Ce que je dis, c'est que nous ne savons pas comment Dieu connaît l'avenir. Ici, il savait quelque chose qui n'était jamais arrivé et pourtant il savait ce qui serait arrivé si David était resté là. Alors soyez prudent avec ça. Est-ce David au Carmel, Abigaïl et Nabal 77, 42-81, 36. Maintenant, Abigaïl et Nabal sont au chapitre 25. C'est une histoire intéressante ici avec Nabal et Abigaïl. Permettez-moi de le parcourir rapidement afin que nous puissions être sûrs de terminer le livre aujourd'hui. L'histoire présente David dans le désert et David protège les moutons de Nabal. Nabal est un homme riche, il possède beaucoup de moutons et de chèvres. David protège les moutons du gars qui traîne dans le désert. Dans le désert, c'est là que se trouvent les banditos, c'est là que se trouvent les criminels. Donc, fondamentalement, ce sont des criminels. David protège les moutons de Nabal de ces criminels, voleurs et diverses personnes qui y auraient traîné. David voit que Nabal tond les moutons et il va tuer quelques-uns des moutons et avoir un peu de viande. Alors David envoie voir Nabal et lui dit, « Eh, j'ai protégé tes moutons, que diriez-vous de tuer quelques moutons aussi et de prendre de la nourriture ?» Nabal demande, « Qui est David ?» Et souffle David. Il dit, « David, sors d'ici, et repousse David. » David dit à ses hommes, « Enfilez vos épées, nous allons descendre et éliminer ce Nabal. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour ce type. » Alors David prend ça vraiment au sérieux, et ensuite que se passe-t-il? Dans le premier verset, il décrit cette femme Abigaïl et il est dit, « C'était une femme intelligente et belle. » Au fait, le récit vous prépare-t-il à ce qui va suivre? David va-t-il épouser cette femme? Elle est intelligente et elle est belle, que se passe-t-il? Elle est mariée à Nabal, c'est un problème. Que signifient ces noms? Nabal, signifie, imbécile. Alors Abigaïl découvre que David vient pour tuer son mari, que fait Abigaïl? Abigaïl récupère toutes sortes de nourriture et l'apporte à David sur des ânes. Puis David dit, que Dieu traite David, même si ce sera très sévèrement si, à cause du deuil, un mal reste en vie. Puis elle tomba à ses pieds et dit, « Mon Seigneur, que la faute en incombe uniquement à moi. Se sacrifie-t-elle pour son mari? Avez-vous déjà vu une femme se sacrifier pour essayer de protéger son mari? Elle le fait. Qu'il ne s'agisse que de moi, s'il vous plaît, laissez votre serviteur vous parler. Écoutez ce que votre serviteur a à dire. Que mon Seigneur ne fasse pas attention à ce méchant homme Nabal. À qui fait-elle référence? C'est son mari. Connaît-elle son mari? Elle connaît le gars. Il est comme son nom est idiot. Cette femme, elle est intelligente et elle est belle. C'est elle que son mari est un imbécile. Oui. Y a-t-il beaucoup de femmes mariées à des maris idiots? Ne demandez pas à ma femme ce qui se produit. Est-ce qu'elle se sacrifie, est-ce qu'elle se couche et dit, « David, que tout retombe sur moi, épargne Nabal, son mari. Cette femme est-elle noble ?» David prend alors la nourriture, recule, puis me laisse terminer l'histoire avec elle. Voyez-vous ce qui se passe? Elle retourne auprès de Nabal, que fait Nabal? Nabal fait la fête, il est ivre. Est-ce qu'on dit quelque chose à un homme ivre? Non, elle ne lui parle pas quand il est ivre. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin et qu'il est sobre, elle lui raconte ce qu'elle a fait et il dit, son cœur a échoué. Elle lui dit et son cœur s'est brisé et 10 jours plus tard, le Seigneur l'a pris. 10 jours plus tard, qui a fait ça? Est-ce que David l'a fait? David ne l'a pas fait. Le Seigneur l'a pris. Maintenant, Abigail, c'est quoi? Elle est veuve. David peut-il l'épouser sans avoir à tuer son mari, puisque le Seigneur l'a pris? Alors David épouse Abigail. Au fait, qu'est-il arrivé à l'ancienne épouse de David, Michal, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, justement, elle a été donnée à un ami de David, comme son témoin, on a déjà vu ça avec Samson. Elle a été donnée à son témoin et maintenant David épouse Abigail. David va avoir des problèmes dans ce domaine, je ne veux pas dire que David est parfait. T. David à Tsiklag et les Philistins 81, 37-82, 33. Maintenant David va à Tsiklag chez les Philistins. C'est une ville de l'extrême sud appelée Ziklag. C'est à l'écart. David le fait là-bas et rejoint les Philistins. C'est vraiment intéressant au chapitre 27, il mentionne ceci, ainsi, ce jour-là, Ekish donna à David Ziklag, elle appartient depuis lors au roi de Juda. Cette déclaration du chapitre 27, verset 6 indique en fait, Ziklag appartient depuis lors au roi de Juda. Les rois de Juda, cela montre-t-il que ce verset a été écrit après la scission du royaume. Vous souvenez-vous qu'après Salomon, le royaume s'est divisé entre le nord et le sud, vers 931 avenue JC. Ce verset indique que 1 Samuel a été écrit après l'époque de Salomon, lorsque le royaume s'est divisé. C'est donc une petite indication de cela. Ce n'est pas grave et je ne veux pas que vous le sachiez, mais cela se produit là-bas. David épargne Saül 82, 34-84, 52. Maintenant, David épargne Saül, il va falloir faire ça vite. Saül entre dans une grotte, que fait Saül? Saül fait une décharge dans une grotte, et il s'avère que David est dans la grotte. David est dans la grotte, David a son couteau. Saül, quand il fait ça, est-il totalement vulnérable? David pourrait le faire sortir, mais David ne coupe qu'un petit morceau de sa robe. Saül sort de la grotte. David sort et dit, « Eh, Saül, il te manque un petit quelque chose. » Et puis que fait-il? Vous souvenez-vous de la façon dont Saül a changé? Il dit, « Oh David, mon fils David, je t'aime David. » Vous savez, tout cela n'est que conneries, mais Saül est-il bipolaire, vous voyez ce que je dis. Alors Saül sort. Pantalon baissé, dans la grotte, David, mon fils. Une deuxième fois, David est là-bas avec ses hommes la nuit, et ils sont sur une colline, Saül est en bas dans la vallée. Qui est le général de Saül qui était censé protéger Saül? Abner. Qui est le général de David? Joab. Est-ce que quelqu'un se souvient que le général de David est Joab? Que fait Joab dans le récit? Joab fait quoi aux gens? Joab, le général de David, tue des gens. Le général Abner de Saül est en fait un type plutôt bien. Le général de Saül était Abner. Donc ce qui se passe, c'est que David descend dans la zone où Saül dort et vole la lance de Saül et sa cruche d'eau et les ramène sur la colline et il dit, « Et Abner, tu es censé protéger le roi Saül. Et, Saül, il te manque un petit quelque chose. » Et la lance de Saül et sa cruche d'eau ont disparu et Saül recommence, « Oh David, mon fils, David !» Il repart comme ça. Que dit David, et c'est la ligne importante ici. David respecte le roi et il dit quoi? Ne touchez pas au Seigneur quoi? Ne touchez pas à loin du Seigneur. David fait vraiment attention à ne pas blesser Saül. Dieu doit prendre soin de Saül. David ne frapperait pas Saül même s'il en avait l'occasion et même si ses propres hommes lui disaient de le frapper, David ne le fera pas. Il ne touchera pas à loin du Seigneur. V. Saül et la sorcière DN de 84, 53-90, 21. Maintenant, chapitre 28 et c'est bien. C'est un passage vraiment important. Saül dans 1 Samuel chapitre 28, Saül va combattre les Philistins dans la vallée de Jezréel. La vallée de Jézréel est plate et large de 20 à 30 milles. Question, les Philistins aimaient-ils la vallée de Jézréel parce qu'elle était plate et qu'il avait des chars? Saül part contre les Philistins, il est mort de peur. Il sait qu'il sera vaincu une de ces fois. Alors il va vers le Seigneur et il demande au Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondra pas par des rêves ou par El Urim et le Thummim. Ai-je parlé de El Urim et du Thummim? El Urim et le Thummim étaient, croient les gens, comme deux bâtons que le prêtre avait sur son pectoral. Le pectoral était comme une bourse, le prêtre sortit El Urim et le Thummim et ils furent jetés, et El Urim et le Thummim donnaient des réponses de la part de Dieu par l'intermédiaire du prêtre. C'était comme tiré au sort. Les gens croyaient que les bâtons pouvaient donner deux réponses, s'ils étaient tous deux de la même couleur, alors ce serait oui. S'ils choisissaient tous les deux les autres couleurs, ce serait non. S'il arrivait de couleurs mélangées, ce serait sans réponse de Dieu. Vous devez donc obtenir trois réponses de El Urim et du Thummim, ces tirages au sort, une réponse oui, une réponse non et une non-réponse de Dieu, en d'autres termes, Dieu ne répond pas. Alors ils jetèrent El Urim et le Thummim, et Dieu ne répondit pas. Alors, ce que fait Saul, c'est, je dois découvrir quelque chose sur ce qui va se passer. Alors il se rend chez cette sorcière, la sorcière des Endel. Il va voir cette sorcière et la sorcière lui dit, laisse-moi juste raconter l'histoire pour le faire rapidement. Il se rend chez la sorcière et elle communique avec les morts. Au fait, y a-t-il des gens de nos jours qui communiquent avec les morts, de quelle ville sont-ils? Alors cette femme dit qu'elle peut parler aux morts, alors Saül dit, faites monter Samuel. La femme est alors tout d'un coup surprise. Elle panique et dit, bon sang, voilà Samuel, et elle voit Samuel. Dès qu'elle voit Samuel, elle sait que ce n'est pas son pouvoir, que Samuel arrive. Elle crie alors et dit, tu es Saul, tu es Saul, tu m'as trompé, tu es Saul. Samuel s'adresse alors directement à Saül et Saül lui demande, que va-t-il se passer dans le futur? Samuel répond, Saul, pourquoi m'as-tu dérangé en m'élevant? Samuel était-il plus heureux là où il était, de l'autre côté de la mort? Pourquoi ce passage est-il si important? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a de l'autre côté de la mort? Ce passage, 1 Samuel 28, vous en dit un peu. Samuel dit, pourquoi m'as-tu dérangé en me ramenant, en m'élevant? Saül dit, les Philistins sont après moi et ils vont me tuer, et je veux savoir ce qui va arriver. Samuel dit que ce n'est pas un problème. Saül, toi et tes fils serez avec moi demain. Saül dit, ouais. Nous serons Samuel. Quel est le problème? Où est Samuel? Mort. Alors Saül part au combat en sachant qu'il va mourir. Maintenant, quel est le problème? Les gens de l'autre côté de la mort sont-ils conscients de ce qui se passe dans ce monde? Samuel était-il conscient de ce qui se passait dans la vie de Saül? Samuel, mort, était-il conscient de ce qui se passait dans la vie de Saül? Non seulement Samuel était au courant de ce qui se passait, mais il était capable de lui dire ce qui allait se passer le lendemain, qu'il allait mourir. Ce que je vous dis, c'est que lorsque les gens meurent, sont-ils conscients de ce qui se passe dans votre vie? Votre grand-père, votre grand-mère, vos parents même, qui sont décédés, sont-ils conscients de ce qui se passe dans ce monde? Je veux vous dire, je pense que sur la base de ce passage, Samuel était très conscient de ce qui se passait. Je pense, par exemple, que mon père est décédé il y a quelques années. Je pense qu'il est conscient de ce que je fais maintenant, pensant probablement que ce gamin ne comprend toujours pas bien, mais de toute façon, il faut être prudent. Ce que je dis, c'est que les gens de l'autre côté. Comment j'y pense, est-ce que quelqu'un se souvient du film The Matrix? Il l'avait autrefois, le film intitulé The Matrix où il y a deux mondes parallèles. Je dis qu'il y a deux mondes, et que les deux mondes interagissent l'un avec l'autre. Je pense que quelque chose comme ça se passe. Donc, ce que je suggère, c'est que, sur la base de ce passage, les gens de l'autre côté de la mort sont fondamentalement conscients de ce qui se passe ici. Les sorcières peuvent-elles ressusciter les morts? Non, cette sorcière n'a pas ramené Samuel. Samuel est revenu de Dieu, pas de cette sorcière. Les morts sont conscients de cette vie. L'implication multigénérationnelle est que vos grands-parents et vos arrière-grands-parents sont conscients de ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que cela change votre façon de penser les choses? Si vous savez que les gens sont conscients de ce qui se passe dans votre vie, est-ce que cela change les choses? Je pense que oui, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Quoi qu'il en soit, assez parlé des sorcières, sortons d'ici, prenons nos balais et partons. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans sa conférence 23 d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament sur le livre de 1 Samuel, la disparition de Saül et les premières histoires du roi David. Transcrit par Daniel Kim. Brut édité par Ted Hildebrandt 2.